Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La rupture de la relation des hommes avec Dieu engendre un déséquilibre profond dans les relations entre les hommes eux-mêmes. C'est l'avertissement lancé par Benoît XVI. Benoît XVI qui a par ailleurs promu son secrétaire particulier tout en le gardant à ses côtés. Des immigrés vulnérables à la merci des bandes locales et de la police aux frontières algériennes et marocaines. Le service des jésuites pour les réfugiés a présenté un rapport accablant à l'Union européenne. Au Canada, les catholiques sont quant à eux invités à une plus grande solidarité avec les populations de l'hémisphère sud. Sao Paulo est la ville la plus violente du Brésil. Entre janvier et septembre, on a dénombré 3536 meurtres, soit une augmentation de 10% par rapport à 2011. Vous entendrez un missionnaire de la Congrégation des Fils de la Charité. Benoît XVI a reçu ce vendredi matin les membres de la Commission théologique internationale qui viennent de participer à leur session plénière annuelle. Dans un discours particulièrement dense, le pape a souligné que les théologiens pouvaient contribuer à l'élan évangélisateur de l'Église à condition de servir fidèlement les vérités de la foi. Il a par ailleurs affirmé que s'il se ferme à la transcendance, l'homme devient incapable d'agir avec justice et de s'engager en faveur de la paix. Xavier Sartre.
Si des formes de violence ont été exercées au nom de Dieu, elles ne doivent pas être attribuées au monothéisme, mais à des facteurs historiques et à des erreurs humaines. Devant un parterre de théologiens, Benoît XVI a souhaité qu'on réagisse avec vigueur contre les préjugés selon lesquels les religions monothéistes seraient porteuses de violence parce qu'elles défendent l'existence d'une vérité universelle. Certains, a-t-il relevé, prétendent que seul le polythéisme des valeurs peut garantir la tolérance et la paix civile et qu'il est conforme à l'esprit d'une société démocratique et pluraliste. Pour le pape, c'est plutôt l'oubli de Dieu qui plonge les sociétés humaines dans une forme de relativisme qui engendre inéluctablement la violence. Quand on ne permet pas à chacun de se référer à une vérité objective, le dialogue devient impossible et la violence, ouverte ou cachée, devient la règle dans les rapports humains. Autre dossier sensible abordé par Benoît XVI, la participation de l'ensemble du peuple de Dieu à la mission prophétique du Christ, reconnue par le Concile, mais sujette à des interprétations erronées. Il ne s'agit pas, a-t-il clarifié, d'une sorte d'opinion publique ecclésiale qui pourrait contester les enseignements du magistère. Le sensus fidei, au contraire, ne peut se développer authentiquement que si le croyant participe pleinement à la vie de l'Église, autrement dit, s'il adhère de manière responsable au magistère.
Et dans son discours, Benoît XVI a par ailleurs souligné que la doctrine sociale de l'Église n'était pas un complément. Elle fait partie de l'ensemble de la doctrine de la foi. Elle puise ses principes à la source de la foi et s'efforce d'appliquer dans la grande diversité des situations sociales le commandement d'amour de Jésus-Christ. Le pape a d'autre part défendu la place de la théologie dans les universités, aujourd'hui souvent contestée en raison de ses liens intrinsèques avec la foi. Plus tôt dans la matinée, dans la chapelle Redemptoris Mater, Benoît XVI avait assisté à la première prédication de l'Avent. Le père Raniero Cantalamessa avait choisi de proposer une réflexion sur le sens de la foi et sur sa mise en pratique dans l'exercice de la charité. Objet de bien des rumeurs et spéculations, la nouvelle est finalement tombée ce vendredi en fin de matinée. Benoît XVI a nommé préfet de la maison pontificale son secrétaire particulier, Mgr Georg Genswein. Il l'a en même temps élevé à la dignité d'archevêque. Mgr Genswein remplacera à la tête de la maison pontificale le nouveau cardinal américain James Michael Harvey, 63 ans, devenu au dernier consistoire archiprêtre de Saint-Paul-Hors-les-Murs, une des basiliques majeures de Rome. Olivier Tossin.
Vraisemblablement, le pape ne compte pas se séparer de son secrétaire, même s'il a tenu à le promouvoir. Le communiqué du bureau de presse n'évoque pas la nomination d'un éventuel successeur. Mgr Genswein devrait donc continuer dans l'immédiat à exercer ses fonctions de secrétaire particulier. Allemand comme le pape, spécialiste de droit canon, âgé de 56 ans, le nouveau préfet de la maison pontificale a rejoint la curie romaine en 1995, d'abord à la congrégation pour le culte divin et les disciplines des sacrements, puis à la Congrégation pour la doctrine de la foi, dirigée à l'époque par le cardinal Joseph Ratzinger, dont il est devenu le secrétaire. Il a depuis toujours fait partie de l'entourage rapproché de Benoît XVI. Dans la foulée du scandale des fuites de documents confidentiels, on se demandait si le pape allait récompenser son fidèle secrétaire ou au contraire l'éloigner. Monseigneur Ganschwein devient donc archevêque tout en continuant à vivre aux côtés de Benoît XVI, une situation inédite dans l'histoire récente de la papauté. Il reconnaît que des vents hostiles soufflent. Quand il frappe le pape, il frappe aussi son secrétaire. Monseigneur Ganschwein en sort fortement renforcé dans les équilibres délicats de la curie romaine. Il aura la lourde responsabilité de gérer l'accès aux audiences papales. Récemment, il avait comparé son rôle à celui d'une vitre. Elle doit être propre et transparente pour laisser entrer le soleil, tout en restant invisible.
Une nouvelle papa mobile pour Benoît XVI, une Mercedes en 2 exemplaires livrée dans l'après-midi de ce vendredi dans les jardins du Vatican. Blanche, un peu plus basse que la précédente, cette nouvelle voiture panoramique blindée est équipée de manière à favoriser le contact entre le pape et les personnes qu'il rencontre pendant ses déplacements. C'est le résultat de 9 mois de travail. Benoît XVI s'en servira dès ce samedi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception. Comme chaque année à la même date, le pape se rendra place des dans le centre historique de Rome pour rendre hommage à la statue de la Vierge. Les liens entre Mercedes et le Vatican remontent à 1930, lorsqu'une limousine fut livrée à Pie XI. La première papa mobile a été réalisée en 1982 à l'occasion du voyage de Jean-Paul II en Grande-Bretagne. Un an plus tôt, le pape avait été victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre. Il était donc nécessaire de conjuguer sa visibilité avec une plus grande sécurité. Des dizaines de papas mobiles de différentes marques et modèles sont aujourd'hui exposés dans plusieurs musées du monde. Développement international, agissons pour la justice. C'est le thème de la campagne d'automne de l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix. À travers cette initiative, les catholiques et toutes les personnes de bonne volonté sont invités à entamer une réflexion sur l'aide internationale et les principes qui devraient la guider dans les paroisses et au sein même des familles. Au micro d'Hélène Destombes, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, s'attarde sur le sens de cette initiative.
Je crois qu'il y a un souffle, on pourrait dire, vers le néolibéralisme qui fait que d'un pays à l'autre, on voit la question du développement d'une façon différente, souvent en termes purement économiques, plutôt que le développement de la personne elle-même, des droits humains, etc. Ça nous interpelle énormément. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il y a aussi la question chez nous, au Canada, le gouvernement, plutôt que de permettre à des agences des organismes non gouvernementaux de choisir des projets et d'approcher le gouvernement pour avoir des subventions, comme Développement et Paix le faisait. Maintenant, le gouvernement est en train de déterminer ses priorités, est en train d'inviter les ONG à faire compétition pour l'argent en fonction des priorités du gouvernement. Ce qui risque de faire des ONG des, on pourrait dire, des organes du gouvernement.
Des outils du gouvernement.
Ça aussi, c'est des questions de fond et la campagne de Développement et Paix vise à éveiller les catholiques du pays à ces questions-là, les invite à rencontrer leurs propres membres de Parlement pour en discuter. C'est vraiment une campagne de conscientisation et d'éveil, oui.
Quels sont les principaux défis, donc à la fois des défis en termes de société, mais aussi des défis au niveau moral, éthique?
Oui, évidemment, il y a au niveau en termes de société, quelles valeurs nous voudrions voir notre gouvernement prôner à l'intérieur de la construction du projet de la société canadienne. Mais aussi, il y a des questions éthiques liées à ça. Par exemple, maintenant, notre gouvernement, disons, décide qu'il veut aider un projet de scolarisation dans un pays, je ne sais pas, en Amérique latine. Et maintenant, on dit, bon, voici le projet de scolarisation et une multinationale, une minière, peut demander d'avoir les fonds gouvernementaux pour bâtir une école à côté d'une mine qu'ils sont en train de construire. Et ça soulève de sérieuses questions au niveau éthique, parce que là, c'est la mine qui risque de mettre en péril l'environnement de cette population-là, qui est aussi celle qui est en train de construire l'école des enfants. Ça crée des situations ambiguës au niveau de l'éthique qui pour nous, doivent être étudiées et discutées.
Les catholiques canadiens, comme les catholiques européens, ont véritablement besoin aujourd'hui d'être motivés. Ils ont besoin d'un nouvel élan.
Je crois que chez nous, de toute façon, on trouve qu'il y a... les gens sont très motivés lorsqu'il s'agit de donner, comme on dit chez nous, un coup de main dans des situations d'urgence immédiate. Je pense, par exemple, au tremblement de terre en Haïti. Les gens ont été très généreux. La sécheresse au Sahel. Caritas Canada a été la Caritas la plus généreuse au Sahel l'année dernière. Alors, les gens sont très motivés de ce côté-là. Ce qui est plus difficile, c'est de réfléchir aux questions de fond qui se posent et de s'engager dans des transformations à long terme. Les questions, on pourrait dire, de justice, évidemment, il est plus facile de travailler sur les symptômes lorsqu'on les voit. Les causes sont plus difficiles à analyser. Et c'est là où on pourrait dire, moi, il me semble de toute façon que la charité chrétienne doit marcher sur deux pieds. D'une part, soulager les effets de la pauvreté, mais aussi travailler, réfléchir, voire à changer les causes de la pauvreté. Marcher à deux pas comme ça, c'est ça le défi pour nous, je crois, chrétiens catholiques, oui.
Cette campagne a été modifiée. Il y avait apparemment un certain malaise au sein de la conférence épiscopale canadienne. Elle était trop politique avant?
Certains évêques l'ont trouvée un peu trop, comment je pourrais dire, agressive. Moi, ma façon d'analyser cela, c'est qu'il y a une différence entre la culture plutôt anglophone, la culture francophone. La culture francophone est une culture qui est plus habituée à la confrontation dans le langage, alors que les Anglais sont plus pragmatiques, ils essaient de travailler par consensus, par esprit collaboratif. Alors, certains évêques, ils avaient peur que cette campagne brusque certaines personnes et crée un risque de briser l'unité de la population catholique. Les évêques auxquels j'ai parlé étaient tous d'accord avec la finalité de la campagne. Ils trouvaient le ton peut-être un peu agressif. Et alors, on a averti le leadership de développement épais qui, en entendant cela, ont dit « bon, on va changer un peu le vocabulaire, le ton ». Et ils ont produit un nouveau matériel éducatif qui est un peu plus dans le sens consensuel, mais qui cherche le même résultat et la même éducation de notre population.
C'était Mgr Paul-André Durocher, vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Le 22 novembre dernier, les évêques du Québec ont rendu public un message pastoral intitulé « Catholique dans un Québec pluraliste », un texte qui fait le point sur le rôle et l'engagement des catholiques dans une société québécoise marquée par la sécularisation et le pluralisme religieux. Les rapatriements forcés, les violations des droits des migrants augmentent au Maroc et en Algérie. Cette situation a été dénoncée jeudi à Bruxelles par la branche européenne du service des jésuites pour les réfugiés. Dans un rapport remis à l'Union européenne, les jésuites déplorent l'absence dans ces deux pays d'une loi permettant aux migrants d'obtenir le statut de réfugié. Toujours selon les jésuites, la situation des migrants est également aggravée par l'indifférence de l'Union européenne qui préfère se désintéresser du problème. Pendant des années, l'Union européenne a demandé au Maroc de refouler les migrants sans vérifier si ces personnes avaient besoin d'une protection humanitaire. En ce qui concerne l'Algérie, autre pays de transit, de nombreux immigrés sont pris au piège et en sont réduits à demander l'aumône et à vivre dans des bâtiments abandonnés. Souvent, on leur confisque même leur téléphone cellulaire. Le rapport des jésuites raconte l'histoire bouleversante d'Armel, un Camerounais de 37 ans qui nageait en pleine nuit à 2 km des côtes marocaines, à proximité de l'enclave espagnole de Ceuta, traînant une chambre à air sur laquelle se trouvait une femme enceinte. Lorsque le pneu a crevé, une embarcation de la garde civile espagnole a refusé de leur prêter secours. Le couple a finalement été secouru par la police marocaine, mais la femme a perdu son enfant. L'Europe devrait donner l'exemple et montrer que les droits humains ne peuvent être négociés. Au Brésil, l'Église élève la voix contre la violence. L'évêque auxiliaire de Sao Paulo, Mgr Milton Kenan Jr., dénonce une insécurité grandissante et généralisée dans la mégapole. Une insécurité patente qui a conduit à l'annulation de messes et de réunions dans quelques paroisses de la ville et de son agglomération en raison du couvre-feu instauré dans certains quartiers à risque. Écoutez le père Michel Lemarchand de la Congrégation des Fils de la Charité. Il est depuis 33 ans à Sao Paulo et confirme lui aussi cette recrudescence de violence.
À partir de 9h30 le soir, les gens ne peuvent plus sortir de leur maison. Et nous voyons cette insécurité déjà depuis un certain temps, mais en ce moment, il y a un pic à cause de certaines organisations qui sont derrière aussi.
Et cette insécurité, comment se manifeste-t-elle concrètement?
Il y a divers types d'insécurité et de violence. D'abord, il faut quand même rappeler qu'il y a une violence familiale qui existe dans les familles et qu'on peut constater, nous, dans notre accompagnement pastoral, et une violence souvent un peu plus cachée, d'ailleurs. Hein. Et il y a la violence urbaine, malheureusement, habituelle, qui est le fait de personnes qui n'ont pas de repères et, par exemple, ont brûlé un bus près de notre maison. C'est un fait nouveau, habituellement, qui n'existe pas. Et puis alors, de fait, il y a des groupes organisés qui ont ces armements, et souvent ces groupes sont liés avec le trafic de la drogue. C'est des groupes qui attaquent aussi la police. Il y a eu des commissariats qui ont été attaqués avec des armes lourdes.
Est-ce que vous êtes senti, vous, personnellement menacé?
Non, personnellement, non. Mais des gens dans le quartier, des gens simples, se sentent menacés. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu cette crainte. Mais on nous dit qu'il faut tout de même faire attention.
L'évêque de Sao Paulo parle d'un manque d'attention, d'un manque de politique publique. C'est là que le bât blesse. Est-ce que les autorités, l'État ne s'implique pas assez dans la lutte contre la violence?
C'est un problème un petit peu général. Et ce n'est pas uniquement un problème du gouvernement actuel. C'est un problème de société. Et des gens déracinés, des gens sans liens familiaux, pour ce qui est de cette violence familiale ou urbaine dont je parlais. Alors maintenant, la violence organisée, du crime organisé avec derrière des trafics de drogue, alors là c'est autre chose qui ne dépend pas forcément du gouvernement comme tel. C'est une sorte d'armée pratiquement clandestine, on peut dire. Hein. C'est un petit peu autre chose. Mais je crois que le problème, il est surtout de société, à vrai dire. Les gens ont perdu leurs repères, la famille est déstructurée. Les communautés humaines sont démantelées petit à petit. Et puis il y a aussi cette idéologie dominante où, en fin de compte, l'autre est vu comme un concurrent qui nous menace. Je crois que c'est un ensemble de sociétés qui est beaucoup plus senti dans la grande ville, parce que la grande ville, c'est un rassemblement de personnes, en fin de compte, seules, qui ont perdu leurs liens familiaux, leurs racines. Je pense que c'est ce qui produit la violence.
Quelle parole peut apporter l'Église et comment est-ce qu'elle peut mobiliser efficacement les personnes en faveur de la paix?
L'Église a certainement un très, très grand pouvoir, on va dire. Je vois dans notre paroisse, nous réunissons environ 3000 personnes toutes les semaines. Alors évidemment, tout ce qui se dit peut aider les gens à choisir des chemins qui conduisent à la paix. L'archevêque de São Paulo a demandé à l'Église, justement, à tous ses niveaux, d'intervenir, de prier, bien sûr, pour la paix, parce que la paix est née d'abord dans le cœur des personnes, et puis elle se répand autour. Et alors, il y a donc la prière et aussi une certaine conscientisation pour que les gens puissent revoir leur manière de vivre en famille, de vivre en communauté. C'est tout un travail de civilisation, à vrai dire, que l'Église a, qui n'est assumé par aucune autre institution. Le problème, quelquefois, c'est que l'Église apparaît, dans certains cas, un peu divisée. Et puis alors, il y a le problème des chrétiens divisés aussi, avec toute la multiplication des sectes qui se disent chrétiennes. Donc, le signe est un petit peu affaibli à cause de cette division.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Après la mort du patriarche gréco-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, Benoît XVI a fait parvenir ses condoléances au métropolite Spyridon d'Héliopolis, au Saint-Synode et à l'ensemble des membres de cette église. Ignace IV Azim s'est éteint mercredi matin dans un hôpital de Beyrouth à l'âge de 92 ans. Il avait ces derniers mois lancé de nombreux appels pour la paix en Syrie et avec les évêques catholiques et les chefs religieux musulmans, il était très engagé pour la réconciliation dans le pays. Dans son message, le pape souligne que le patriarche Ignace a offert au cours de sa longue vie un témoignage lumineux de foi et de charité en œuvrant également pour la grande cause de la réconciliation et de la paix entre les hommes. Benoît XVI se félicite aussi de la contribution du patriarche défunt au processus de rapprochement entre les églises catholiques et gréco-orthodoxes. La prochaine journée mondiale du malade sera célébrée avec une solennité particulière en Allemagne. Le 11 février 2013, fête de Notre-Dame de Lourdes, un prélat de la curie romaine présidera au nom du pape les célébrations au sanctuaire marial bavarois d'Altötting, cher à Benoît XVI. Le pape a choisi comme envoyé spécial Mgr Zimowski, président du Conseil pontifical pour la santé. Il s'agira de la 21e journée mondiale du malade, instituée en 1992 par Jean-Paul II, l'occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.